Et sur Radio Shalom, comme tous les jeudis, nous sommes dans les studios avec Sylvain Attal. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonne fête de Hanouka.
Bonne fête à vous. Alors, comme chaque semaine, on va tenter de comprendre comment va le monde. Et là, on va parler plutôt de la France. Au lendemain de la journée de deuil national, vous vous demandez, Sylvain Attal, si nous n'avons pas été trop durs avec Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, pour une fois, je vais regarder un peu dans le rétroviseur. Donc, Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint et au-delà des hommages de circonstances, on ne peut pas dire qu'on sente vraiment dans le pays une émotion comparable à celle qui s'était emparée de la France après la mort de Jacques Chirac et même celle de François Mitterrand, deux hommes qui étaient pourtant très clivants et qui ont été très attaqués pendant leur présidence. Giscard a pourtant, en un seul septennat, un bilan modernisateur plus qu'honorable et qui laisse même une trace indiscutable dans l'histoire contemporaine de notre pays. On l'a dit, mais je le rappelle rapidement, le droit de vote à 18 ans, l'IVG, le remboursement de la pilule, une réforme démocratique capitale, la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou sénateurs, donc par l'opposition, alors que c'était jusque-là un privilège de l'exécutif, le secrétariat d'État aux droits des femmes, qui donne une visibilité à la question de l'égalité, la fin du contrôle des prix, qui fait entrer la France dans un club des économies modernes, et puis au plan international, l'élection du Parlement européen au suffrage universel, le système monétaire européen précurseur de l'euro dont on voit à quel point il nous protège dans la crise actuelle, les grands sommets G5, G7 qui sont maintenant devenus G20, on se demande parfois à quoi ils servent, mais enfin, ils n'ont jamais été remis en cause et ils permettent aux dirigeants du monde de discuter sur un mode informel. Et la plupart de ces réformes d'ailleurs ont été mises en place très vite et votées dans les deux premières années du septennat. Bien sûr, c'est un peu loin tout ça et la fin a été moins brillante, un président de plus en plus seul et hautain, monarchique même, vous vous souvenez qu'il se servait en premier dans les dîners d'État, Margaret Thatcher avait été très choquée, un virage sécuritaire avec la loi sécurité et liberté du garde des Sceaux au perfit, le recul devant l'abolition de la peine de mort à laquelle il se disait pourtant opposé et son refus de gracier le moindre condamné à mort, et puis bien sûr l'affaire des diamants comme symbole des pratiques occultes de la France et Afrique, mais l'œuvre reste quand même conséquente, surtout quand on la compare au maigre bilan des deux mandats chiraciens.
Alors, pourquoi donc cette sorte d'ingratitude à l'égard de VGE ?
Alors oui, ingratitude, injustice même peut-être. Il y a une chose qui se révèle être une constante dans la façon dont on juge la postérité des présidents, c'est que leur caractère, parfois même leur style de vie personnel, tend à prendre beaucoup plus d'importance que leur bilan politique. Mitterrand a été très critiqué, mais il a ému le pays par le courage dont il a fait montre dans son combat personnel contre la maladie. Chirac était un bon vivant, sympathique et chaleureux, attentif aux autres, même les plus humbles. Tous les deux ont été réélus par Giscard. Sarkozy a perdu, lui certainement plus à cause d'une certaine vulgarité de comportement, jugée impropre à la fonction présidentielle. Il avait pourtant été tout à fait à la hauteur pendant la crise violente de 2008. François Hollande n'a même pas pu se représenter alors que les attentats de 2015 ont été l'occasion d'une union sacrée exceptionnelle contre le terrorisme. Tout le monde avait salué sa réaction lorsque la guerre était portée dans nos rues par les islamistes. Mais on le trouvait non pas trop normal, mais trop léger. Son aveu d'avoir commandité des exécutions extrajudiciaires aurait même pu lui valoir la haute cour. Puis souvenez-vous de l'escapade romantique en scooter et du livre de sa compagne Valérie Trierweiler et de l'anecdote sur les 100 dents. Tout cela a sans doute davantage pesé que l'examen de leur bilan. C'est une première explication. Comme les autres, Giscard, qui avait révolutionné les codes de communication politique en 1974, a été victime d'une image très mal gérée en deuxième partie de son mandat, sans doute malgré tous ses efforts, aussi d'un présidentialisme français qui était déjà à l'époque anachronique. On peut même dire qu'Emmanuel Macron en fait lui-même les frais. Il semble bien moins moderne depuis qu'il s'est coulé dans la fonction présidentielle.
En tout cas, Sylvain Attal, la défaite de Giscard et la victoire de Mitterrand est aussi l'une des rares élections lors de laquelle un vote juif a pu peser dans la balance.
Oui, vous me voyez venir depuis le début. La défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1980 était beaucoup trop large pour que ce seul facteur puisse l'expliquer. Mais c'est vrai qu'entre les Juifs français et Giscard, le courant n'est jamais vraiment passé et que ça s'est même terminé dans une franche hostilité. J'ai même entendu à son encontre des accusations d'antisémitisme. On lui a fait porter en fait le poids de la fameuse phrase de son premier ministre, Raymond Barre, après l'attentat de Copernic, vous vous en souvenez sans doute, un attentat qui visait des juifs et a tué des Français innocents. Accusation assez aberrante d'ailleurs pour un président qui a été quand même à l'origine de la carrière de Simone Veil et de Lionel Stoléru, deux personnalités très influentes dans la communauté juive. Alors, le vrai objet de fâcherie entre Giscard et les juifs, c'est bien sûr le Proche-Orient. Et ça renvoie au jugement qu'on peut porter sur la politique étrangère giscardienne, pour laquelle, il faut bien le dire, Israël était tout simplement un angle mort. Giscard a avoué qu'il s'était jamais intéressé au conflit israélo-palestinien avant son élection, et il décide d'autoriser l'ouverture d'un bureau officiel de l'OLP en 1975. La France est l'un des premiers pays d'Europe à le faire, et à cette époque, on est encore loin du processus d'Oslo. Hein. L'OLP mène des actions terroristes qui tuent des civils, parfois des enfants en Israël. Le monde arabe unanime, forme de l'arme du pétrole, jure qu'il ne reconnaîtra jamais Israël. C'était ça les années 70. Alors passe encore que VGE ait reconnu l'OLP comme un interlocuteur en 1980. La politique giscardienne était en parfaite phase avec ce qu'on appelait alors la politique arabe de la France, c'est-à-dire pas de contact avec des responsables israéliens, de peur de subir les foudres du boycott arabe, et bien sûr pas de voyage officiel. Pire, on se souvient encore de cette photo terrible, toujours en 1980, où on voyait Giscard scrutant Israël à la jumelle depuis la Jordanie. Calme et réservé, voire froid et hautain, sont d'ailleurs les objectifs qui reviennent le plus souvent au sujet de l'ex, comme on l'appelait. Ils sont sans doute mérités, même s'ils cachaient un tempérament d'écorché vif. Et pourtant aussi une intelligence à l'état brut, un esprit de synthèse dépourvu d'affect et parfois assez déroutante, comme lorsqu'il avoue, dans un documentaire qui vient de repasser à la télévision, qu'il n'est pas d'un naturel méfiant et qu'il a tendance à facilement accorder sa confiance. C'est une faiblesse qui peut s'avérer mortelle en politique, et il vaut mieux distiller sa confiance avec parcimonie. Voyez d'ailleurs la méprise Chirac-Giscard, double méprise même, a dit une journaliste célèbre, Catherine Ney. Si le RPR n'avait pas appelé à voter Mitterrand en 81, eh bien Giscard aurait sans doute été réélu. Non, Giscard, en fait, n'était pas le moins du monde antisémite, mais la cause des Juifs d'Israël ne lui inspirait tout simplement aucune espèce de sentiment, ni empathie, ni antipathie. La situation d'Israël, puissance militaire, mais à l'époque isolée dans la région, était pour lui une sorte de variable d'ajustement de sa politique arabe et africaine. En 1979, lors d'un sommet franco-africain, il jette d'ailleurs les bases d'un dialogue à trois entre les Européens, les Africains et les Arabes. D'Israël, toujours en quête de reconnaissance, et qui vient pourtant de signer une paix séparée avec l'Égypte, il n'est à aucun moment question. D'ailleurs, la France de Giscard se montre on ne peut plus réserver sur les premiers accords de Camp David avec l'Égypte. Là encore, Paris s'aligne sur les autres pays arabes qui punissent l'Égypte. Israël, c'est donc l'état de trop, en fait, assez fort pour se défendre tout seul. On est au climax de la politique arabe, dont il reste bien peu de choses aujourd'hui, surtout aujourd'hui où on voit ce qui s'est passé avec la reconnaissance d'Israël par le Maroc. Et quand on voit le chemin parcouru par Israël dans sa coopération avec l'Afrique, l'omission de Giscard laisse un peu songeur.
Et avec le temps, Sylvain Attal, les relations ne se sont pas beaucoup normalisées.
Non, pour pas dire qu'elles se soient normalisées. Je me suis toujours demandé d'où venait, sous Giscard, ce sentiment de beaucoup de Juifs d'être marginalisés en quelque sorte dans leur propre pays, malgré Simone Veil, malgré Stoléru, j'en ai parlé. Et puis j'ai deux éléments de réponse. D'abord, en 1991, en prétendant lutter contre l'invasion de l'islam, Giscard propose, dans une interview célèbre au Figaro Magazine, d'abolir le droit du sol au profit du droit du sang. Pour tous ceux qui ont trouvé asile en France et dont les enfants sont devenus français du fait de leur naissance sur son sol, c'est un peu difficile à avouer. Et puis, dans le même documentaire dont je parlais tout à l'heure, qui donne une image d'ailleurs assez sympathique de Giscard, en grand bourgeois libéral, moderne, mais en fait incompris, il y a une séquence absolument hallucinante. On demande à un moment donné, c'est Patrice Duhamel, je crois, qui demande à Giscard pourquoi, en 1995, il a soutenu Chirac plutôt que Balladur, alors que la plupart des centristes, des républicains, du Parti républicain, donc ses amis politiques les plus proches, ont fait le choix inverse de soutenir Balladur. Et Giscard, en toute ingénuité, compare alors les racines purement limousines de Chirac à celles plus orientales de Balladur, c'est ce qu'il dit, qui est né, vous le savez peut-être, à Smyrne, en Turquie, dans une famille arménienne. D'ailleurs, Balladur était assez gêné de ses origines. Enfin, c'est comme ça. Le tout comme si c'était l'évidence que des racines françaises de souche devaient forcément faire un meilleur président, ce qui est un argument maurassien, même quasiment un argument vichiste. Et du coup, en regardant ce documentaire, le malaise Giscard était à nouveau en pleine lumière.
Sylvain Attal pour tenter de comprendre comment va le monde chaque jeudi sur Radio Shalom. Merci Sylvain, bonne fête de Hanouka à vous.
Merci, bonne fête à tous, au revoir.